Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du prix des carburants. Alors les prix des carburants, j'en connais quelque chose puisque je suis moi-même un pétrolier. Un pétrolier, oui, effectivement, puisque, alors, je possède pas personnellement de puits de pétrole, bien sûr, mais comme j'ai passé ma vie dans une raffinerie de pétrole, eh bien, on appelle ça un pétrolier. Et donc, en tant que syndicaliste, j'ai eu l'occasion de creuser ces questions. Donc, en tant que pétrolier, je développe donc cette chronique. Tout d'abord, la grande question, c'est comment se forme le prix des carburants à la pompe. Qu'est-ce qu'on paye à la pompe? Eh bien, à la pompe, on paye une majorité de taxes imposées et calculées sur les taxes préalables. On paye une majorité de taxes et c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, sauf que comme le prix du pétrole était plus faible, ça se voyait moins. En 2014, un dénommé Emmanuel Macron, je sais pas si ça vous dit quelque chose, avait augmenté les taxes puisque le prix du pétrole avait baissé. Donc vous voyez que c'est toujours et encore la même logique. Donc on voit qu'on paye une majorité de taxes, que c'est pas nouveau. Alors ce qui est nouveau, effectivement, c'est cette fameuse taxe carbone. Les grandes entreprises ont trouvé le moyen d'y échapper. Elles ont créé une bourse d'échange de droits à polluer. Hein, cette taxe carbone est sur le marché financier. On s'achète des droits et au bout du compte, ces grandes entreprises trouvent non seulement quelquefois le moyen de faire de l'argent avec, mais globalement de pas payer grand-chose. Rassurez-vous, il reste les automobilistes pour payer. Alors, qui paye exactement à part les automobilistes ? Les routiers? Eh bien non. Les routiers payent pas la taxe carbone pour tous les transports au-delà de 7 tonnes 5. Donc ils ont trouvé un arrangement fiscal, donc pour en faire une opération blanche. Qui paie autrement? Ah, la marine marchande. Eh bien non. La marine marchande paye pas non plus la taxe carbone. La navigation de plaisance la paye pas non plus. Ah, il reste l'aérien. Eh bien non, l'aérien la paye pas. Donc vous avez bien trouvé, il y a pratiquement que les automobilistes qui paient la taxe carbone. Alors, vous payez la taxe carbone pour l'environnement, bien sûr. Encore déception de ce point de vue-là, puisqu'en fin de compte, sur la taxe carbone, il n'y a que 19% de cette taxe qui va à la transition écologique, le reste va pour renflouer les caisses de l'État. Donc même pour ceux qui en ont les moyens, finalement, on paye pas grand-chose de cette souscription, là, en quelque sorte, pour aller vraiment dans le sens de la transition écologique. Alors, on paye quand même un petit peu, quand on va à la pompe, un petit peu pour le pétrole. Alors, pour le pétrole, pas vraiment. Disons pour les pétroliers plus exactement. Il faut bien comprendre que le prix du baril, c'est le calcul qu'on fait pour mesurer finalement les volumes. Un baril, ça fait 154 litres. Bon, on dit le prix du baril. Eh bien, en Arabie Saoudite, le prix du baril, encore aujourd'hui sur certains puits, est inférieur à l'extraction à moins de 2 euros le baril. Donc vous voyez que ce que vous pensez payer à la pompe, eh bien finalement, il y a pour le moins de la spéculation derrière. Donc une spéculation énorme, et en fin de compte, vous payez d'abord et avant tout des taxes et de la spéculation. Alors, pour vous citer un exemple, on prend un tanker, c'est un navire pétrolier qui part du Moyen-Orient, qui va aller par exemple à Marseille. Eh bien, pendant son trajet, la cargaison de ce tanker va être vendue, rachetée, revendue, rachetée plusieurs fois pour faire de la spéculation, y compris en cours de trajet. On a calculé, par exemple, que pour certains tankers, pendant le trajet, le prix de la cargaison pouvait être vendu et racheté jusqu'à 700 fois. Alors évidemment, à chaque fois qu'on rachète et qu'on revend, on rajoute sur le prix et qui paye à l'arrivée? Eh bien, évidemment, c'est vous. Si on regarde les résultats de Total, eh bien, en 2017, les résultats étaient supérieurs de 28% à 2016. Si on regarde les résultats du premier semestre 2018, eh bien, les résultats sont encore nettement à la hausse. Donc, on voit que cette hausse du prix des carburants en profite finalement aux actionnaires. Ils s'en cachent pas, ils le disent. Vous pouvez le voir sur Internet. Ils le disent officiellement dans leur déclaration, avec comme objectif pour les trois années à venir que les dividendes dépassent pour chacune de ces trois années 10%. Donc, c'est écrit. Et évidemment, quand l'argent est donné aux uns, il est pris aux autres, et vous savez qui sont les autres. Alors, on pourrait regarder aussi maintenant qu'est-ce qui se passe en France en termes de fabrication des carburants pour essayer d'y voir clair dans la formation des prix. Eh bien, précisément non, on peut pas le faire puisqu'il y a une opacité totale. Même dans les comités d'entreprise des raffineries en question, par exemple, on nous refuse de nous donner les véritables chiffres. En fait, c'est Total Exploration qui vend à Total Raffinage, qui revend à Total Distribution et qui déplace ses marges de profit là où il veut. Voilà comment ça se passe, et donc opacité totale sur la formation des prix et spéculation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder en France d'où proviennent les carburants. Eh bien, en fait, on est de fermeture de raffinerie en fermeture. On en a fermé pratiquement la moitié en 20 ans. Il ne reste plus que 7 en France. Eh bien, on importe, de plus en plus de produits finis. Par exemple, le gasoil. Le gasoil est importé aujourd'hui en France à 45% des volumes consommés. Donc, c'est énorme. Pour illustrer, il y avait 4 raffineries sur les Temps de Berre, à côté de Marseille. On en a fermé 2, et on a construit un gigantesque stockage d'importation de produits finis du côté de Fos-sur-Mer. Voilà comment ça se passe, et pendant ce temps-là, évidemment, il y a moins d'emplois, il y a plus de pollution puisqu'on va fabriquer dans des pays où il n'y a pas de normes environnementales, etc. Alors, un des arguments pour faire monter le prix, c'est la fin du pétrole. Eh bien, cette fin du pétrole, je pense que tous ceux qui nous écoutent ne la verront pas. D'abord, il faut rappeler que la première erreur à ne pas commettre, c'est que le pétrole sert aussi de matière première principale à la chimie, au plastique, au caoutchouc. Ce n'est pas seulement produire des carburants. Et d'ailleurs, parmi les revendications, ce serait que ce pétrole serve uniquement à faire ce qu'on appelle des produits nobles, c'est-à-dire ne pas le brûler dans les moteurs ou les chaudières, mais à être utilisé pour toute la filière de la chimie, on en est loin. Donc il n'y a pas véritablement de fin du pétrole, mais on nous fait le coup, comme on le fait pour l'eau potable, pour faire monter les prix. On nous dit que ça se raréfie à simplement but de faire monter les prix. Aujourd'hui, on sait aller chercher du pétrole là où on ne savait pas extraire hier. En fin de compte, l'extraction se déplace en fonction d'une part des découvertes, de l'évolution des sciences et techniques. On sait aller chercher du pétrole bien plus profond. Et, par exemple, le recul de la calotte glaciaire annoncée va ouvrir de nouvelles possibilités d'extraction. Donc, je dis pas qu'il y a quelque chose de malheur et bon, bien sûr, mais on va pouvoir, dans les décennies à venir, aller chercher du pétrole là où on ne savait pas le faire jusqu'à aujourd'hui. À savoir que dans le monde, cette consommation, c'est un constat, de pétrole augmente. Et d'ailleurs, Total, au niveau de son volume de production, a augmenté encore son volume de production de plus 5% en 2017. Voilà ce qu'il en est pour cette pseudo-fin du pétrole qui sert surtout à faire monter les prix alors que la réalité est tout de même très différente. Alors, puisqu'on est dans les taxes, on va peut-être pouvoir parler un petit peu de questions d'environnement. Alors, en ce qui concerne les pétroliers, la logique est très simple. Tant qu'il y a de l'argent à se faire, on y va. Total, par exemple, refuse d'investir en France sur la filière du moteur à hydrogène, puisqu'on sait maintenant, aujourd'hui, fabriquer des moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène. Refuse de le faire en France. Par contre, il le fait à l'étranger. La raffinerie de Provence a été fermée, raffinerie de pétrole, mais elle a été baptisée raffinerie bio, c'est nouveau, ça vient de sortir, avec une importation d'huile de palme qui est censé faire des carburants bio. Alors c'est une aberration tant du point de vue économique, puisque ça ne fonctionne qu'avec des subventions tout à fait démesurées, mais c'est aussi une aberration du point de vue écologique. Donc vous voyez, hein, sur les pratiquement sur la question des produits bio, on y va aussi sur les carburants. Et on y va aussi, par exemple, avec Monsieur Belin, qui est maintenant décédé, qui était l'ancien patron de la FNSEA, hein, milliardaire connu, qui a lancé finalement en France l'histoire des carburants bio, qui sont une aberration, mais qui était censé donner finalement quelques perspectives aux gens du monde agricole. En fin de compte, ça coûte plus cher. C'est tout à fait polluant puisqu'il faut une dépense d'énergie considérable pour transformer du blé ou du maïs en carburant et finalement on n'y est pas, mais ça donne une illusion. Alors sur la question de l'impôt, ça peut être aussi intéressant de regarder ce que font les multinationales en France. Alors c'est assez simple, que ce soit par exemple Exxon ou Total. Les grandes multinationales du pétrole, comme d'ailleurs McDonald's, Amazon et les autres, ne paient pas d'impôts en France. Ils ne paient pas d'impôts en France puisqu'ils créent finalement des montages financiers pour faire apparaître leurs bénéfices dans les paradis fiscaux et échappent ainsi à l'impôt et apparemment sans grande réaction du pouvoir politique. Voilà un petit peu un tour de table sur les questions de fiscalité, de prix de carburant à la pompe et d'environnement qu'on peut faire rapidement en ce qui concerne ce que nous payons finalement, à partir de ce que nous payons, dans ce que nous mettons dans nos réservoirs. Alors, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on peut quand même essayer de faire une conclusion. Une conclusion, eh bien, c'est qu'encore plus qu'hier, compte tenu des dérèglements climatiques, l'énergie ne peut être laissée aux mains des intérêts privés, et c'est pourtant bien le cas. Il y a grande urgence à faire du concret, et non pas simplement en nous présentant des taxes, à faire du concret sur le transport collectif, à faire du concret sur l'isolation des logements, à privilégier le rail qui est bien moins polluant que la route, au plus près des lieux de consommation. Sur le plan fiscal, ce n'est pas à la population de payer, en lieu et place de ceux qui engrangent de super profits, ne paient pas d'impôts et polluent sciemment notre planète. Voilà ce qui sera ma conclusion pour aujourd'hui dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cœur
Bus. Le public de jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.